Je suis BenoFX et vous écoutez la chronique Jeux du mois sur Proxy Jeux. Eh bien bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Comme d'habitude pour ce numéro de Jeux du mois, je suis accompagné de Cyrus. Bonjour Cyrus.
Salut BenoFX.
Comment vas-tu? Retour de Cannes.
Bah oui, ça commence à dater un petit peu. Voilà, on a pu se poser et faire quelques parties des jeux qu'on a pu essayer à Cannes.
Tout à fait.
Et on va en parler ce soir.
C'est ça. Eh bien moi de mon côté, je vais vous parler de Farben.
Yep.
Et toi Cyrus?
Et moi je vais parler de Wingspan.
Très bien, deux jeux qu'on a pu essayer à Cannes, dont un auquel on a joué ensemble, parce que
Wingspan,
on n'était pas sur la même table.
Non, on n'était pas sur la même table, on va voir un peu ce que ça a donné de ton côté.
Tout à fait.
Mais on va commencer par revenir sur les commentaires.
Oui, oui. Alors effectivement, le mois dernier, il n'y a pas eu d'émission car on était à Cannes, et l'émission d'avance, on avait présenté Cerber de la boîte de jeux et Anamikoji chez Yellow. Donc on a eu quelques commentaires, notamment sur Cerber, on disait que c'était assez rare les jeux où on pouvait changer de camp en fait en cours de partie. Donc il y a pas mal de personnes qui nous ont cité des jeux dans lesquels c'était le cas également. Donc il y a Brutus qui nous parle de Panic Station, Fenduel qui nous parle de Spores, Dede Shoots qui nous a rappelé Eaten by Zombie, Mr. K qui nous parle de Nostra City, et Siouvei qui nous parle de Prison Break, mais qu'apparemment c'était pas le meilleur jeu auquel il jouait.
C'est ça, je crois que c'était genre un jeu TF1 game, mais qu'effectivement la promesse était intéressante, mais que le jeu au final était pas terrible quoi.
Alors moi effectivement sur la liste donnée, je connais que Spores, les autres je connaissais pas, enfin en tout cas j'y ai pas joué. Effectivement Spores, on change de camp comme ça, mais c'est plus un loup-garou like, c'est assez différent comme jeu finalement.
Ouais, mais bon, le principe est là quand même.
Oui,
effectivement. Il y a un principe de contamination dans Panic Station, je crois que c'est ça aussi.
Ouais.
Alors oui, en fait, globalement, c'est beaucoup ce principe de contamination, parce que si t'as Eaten by Zombie, c'est pareil.
Ouais.
Oui, mais effectivement, c'est pas beaucoup de jeux, mais c'est intéressant de pouvoir les reciter.
Les similitudes, D'autres commentaires, Cyrus?
Oui, il y avait des commentaires concernant Anamikoji, donc c'était le jeu que j'avais chroniqué. Twin nous informait en fait qu'il y avait eu de nouvelles illustrations pour l'Amérique du Nord. Alors je sais pas du coup si elle est exactement la même info ou pas, mais en fait il y a Lucky Slug aussi sur Twitter qui m'a informé qu'il y avait eu un Kickstarter qui a été fait avec une autre version. Alors c'est le même éditeur à l'origine, il me semble, mais c'est une version en fait avec des hommes dessus, je crois que c'est des samouraïs, et le jeu ne s'appelle plus Anamikoji mais alors Jixia Academy, je sais pas exactement comment ça se prononce, mais J-I-X-I-A Academy.
Okay.
Voilà, donc c'est une version, je sais pas si on peut dire du coup c'est une version pour les femmes avec des hommes, j'en sais rien.
c'est un peu bizarre. C'est toujours un peu suivant quoi. Enfin, soit l'autre.
Ouais, je sais pas. Ouais. Et donc c'est exactement le même jeu, hein, c'est juste les illustrations qui changent au final. Voilà.
D'accord.
Et le thème derrière, parce que du coup c'est plus des
geisha.
C'est plus des geisha, je sais pas exactement ce que c'est. Voilà.
Ok.
Voilà pour les commentaires de la dernière fois.
Très bien, et je te laisse commencer par Wingspan.
Et allez, c'est parti alors. On va attaquer sur Wingspan. Alors Wingspan, c'est un jeu de Elizabeth Hargrave qui est illustré par trois personnes. Ce sont trois femmes, Beth Sobel, Anna Maria Martinez Jaramillo, et Natalia Rojas. C'est édité à l'origine chez Stonemaier Games, qui est donc l'éditeur de Scythe, et ça a été localisé en français chez Matago. C'est un jeu qui est donné pour 1 à 5 joueurs, des parties annoncées de 60 minutes à partir de 10 ans, et on ne le trouve plus actuellement chez Philibert, il est à 49,90€. Il est en rupture, éditeur. Voilà, donc là comme ça c'est clair. Le jeu doit revenir courant mai. Alors Wingspan, c'est un jeu qui a pas mal buzzé hein, sur Twitter. Il y a peu de chances, enfin sur Twitter et sur Facebook d'ailleurs, il y a peu de chances que vous soyez passé à côté. Malgré tout, j'ai quand même choisi d'en parler. Vous verrez que je lui ai pas trouvé que des bons côtés. Et du coup, peut-être intéressant, on va sortir peut-être un petit peu des sentiers battus de cette chronique. Même si, spoiler, hein, j'apprécie quand même beaucoup le jeu. Voilà. Donc le principe du jeu, c'est en fait, c'est d'obtenir le plus de points de victoire possible en collectionnant des oiseaux dans un tableau qui va être devant soi. Tout cela autour de 4 manches, au terme desquelles on réalise à chaque fois un décompte de points qui est variable d'une partie à l'autre. Chaque oiseau est différent dans le jeu, il y en a 170, et ils vont être différents par au moins un des aspects qui le composent. Alors ça peut être le coup de peau, ça peut être les points qu'il rapporte, ça peut être les effets qu'il déclenche, etc., etc. Donc c'est des oiseaux qui sont tous uniques, mais il va y avoir des points communs, hein. C'est-à-dire que c'est pas vraiment, c'est pas une unicité complète de, par exemple, quand je parle des effets qui sont déclenchés par les oiseaux, les effets sont pas tous uniques.
Par contre, c'est que des espèces d'oiseaux différentes. C'est vraiment un vrai travail au niveau des espèces d'oiseaux.
Voilà, qui sont toutes originaires d'Amérique du Nord, au moins pour cette version. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, le principe de la mécanique de jeu qui va être mise en œuvre, on va poser. En fait, on a un tableau. Donc, je vais essayer de l'expliquer un peu sous la forme de ce tableau. Dans les colonnes, on va venir poser des oiseaux dans trois habitats possibles qui sont eux représentés dans des lignes. Il y a la forêt, la prairie et les zones humides qui sont appelées des marais. Et en plus de ça, donc en plus du fait de pouvoir poser des oiseaux, il y a d'autres actions qui sont possibles à notre tour. Il y en a trois différentes. Ce sont les actions qu'on va réaliser justement dans les habitats, donc qui eux vont être réalisées en ligne. Soit on va jouer dans la forêt, on va jouer l'action de la forêt qui va nous permettre d'obtenir de la nourriture, qui permet donc de poser ensuite des oiseaux. Soit on va jouer dans la prairie, donc l'action de la prairie permet de faire pondre des œufs à ces oiseaux, qui permet également de payer les oiseaux. Et dernière action possible, c'est de récupérer des cartes oiseaux, donc dans les marais. Et avec les cartes oiseaux, évidemment, on peut poser des oiseaux. C'est incroyable. Donc, en fait, on a l'action de pose des oiseaux qui jouent en colonne et différentes actions qui jouent en ligne qui vont nous permettre, en fait, il va falloir enchaîner correctement, grosso modo, pour pouvoir poser le plus d'oiseaux possible. Alors, ça, c'est une façon de mettre des points, c'est de poser ces oiseaux. Mais en fait, il y en a d'autres. Il y a d'autres façons de mettre des points. Il y a les objectifs que je citais en introduction. Donc, ces objectifs de fin de manche. Il y a les oiseaux. Ça, je pense qu'on l'a compris. Il y a les œufs. Donc chaque œuf qui sont présents sur le plateau à la fin, ça va être un point. Et puis il y a des choses un petit peu plus particulières. En gros, les effets des oiseaux vont faire qu'on va parfois poser de la nourriture sur eux ou parfois poser les cartes
en dessous.
Voilà. Donc ça aussi, ça va faire des points à la fin.
Et il y a des cartes objectifs aussi secrets, si je me trompe.
C'est vrai.
Pas.
Effectivement, ça c'est le dernier volet qui permet de mettre des points. Ce sont des objectifs individuels qui sont tenus secrets jusqu'à la fin de la partie. Donc on commence déjà à entrevoir qu'il y a un petit medley de différentes choses dans ce jeu, hein, rien que sur le scoring. Il y a un aspect, j'allais dire collection, c'est pas de la collection, hein, c'est on vous repose des oiseaux, ils rapportent des points. Hein, voilà. Et puis il y a ce truc où on joue sur les effets des oiseaux qui vont rapporter des points également. Et en fait, pour moi, ce jeu-là, alors il est présenté comme un jeu de. Alors, je vais retrouver le terme exact parce que comme ça, je vais pas. C'est pas la peine de paraphraser. Hein. ils disent que c'est un jeu compétitif d'optimisation et de collection d'oiseaux. Alors le jeu, effectivement, il a été affublé de pas mal de termes mécaniques et autres sur les réseaux sociaux. Et finalement, c'est vrai que quand on regarde la description que l'éditeur en donne, il va pas chercher d'aspect mécanique. Il dit que c'est un jeu d'optimisation et de collection.
Oui.
L'aspect collection, encore une fois, c'est tu poses des cartes d'oiseaux. Enfin, bon, c'est pas de la collection comme on peut l'entendre dans la mécanique de collection set où le but c'est de faire des paires, des brelans, tu vois, de chercher trois trucs identiques, trois trucs différents, machin. C'est pas cet aspect-là, quoi.
Non, non.
En revanche, effectivement, je suis d'accord que c'est vraiment de l'optimisation.
Après, le côté collection, les cartes d'objectifs cachées te demandent souvent de collecter un maximum d'oiseaux d'un certain
c'est
type
vrai,
avec
ouais.
certains nids, certains...
C'est vrai, c'est une bonne remarque. Ouais.
Ouais. Donc l'aspect collection, il peut être là-dedans. Tu dois essayer d'harmoniser un peu les oiseaux que tu poses aussi pour ces objectifs-là.
Ouais, c'est vrai. Du coup, ça fait presque un peu salade de points, tu vois, parce que t'as plein de points que tu vas récupérer un peu partout. Mmh. Et finalement, le jeu, donne presque plus cette impression-là, sauf que t'as peut-être pas une grande variété comme dans la salle de points, et t'es pas complètement à l'aveugle parce que tu vois tes points un peu plus directement, quoi. Mais oui, c'est vrai, effectivement, ouais, pour le collection set, on va trouver effectivement cette partie-là dans l'objectif secret. T'as raison. Et ce que je voulais dire aussi, du coup, c'est que finalement, toi, pour gagner, pour moi, c'est vraiment le côté optimisation. C'est-à-dire que il va falloir à chaque action, faut que tu t'arranges pour qu'elle soit rentable du plus de façon possible. C'est-à-dire que quand tu as joué des actions, alors ce que j'ai pas encore complètement détaillé, hein, mais quand tu as joué des actions en ligne, tu vas ensuite activer les oiseaux qui sont sur cette ligne.
Tout à fait.
Qui ont déjà été posés. Du coup, tu as tout intérêt à faire en sorte que si tu joues cette ligne-là, non seulement ça te rapporte l'effet que j'ai indiqué précédemment, c'est-à-dire obtenir de la nourriture, des œufs ou des cartes oiseaux, mais qu'en plus ça vient de t'activer des effets, et si possible du coup des effets qui vont te permettre ensuite derrière d'enchaîner avec un truc intéressant. C'est à dire que, je sais pas, admettons, tu joues dans la forêt, tu récupères de la nourriture, donc le but c'est peut-être de poser un oiseau que t'as dans ta main qui demande la nourriture en question, et derrière peut-être que t'as des pouvoirs qui vont te permettre de, je sais pas, de récupérer des œufs par exemple. Voilà, donc il va falloir toi enchaîner comme ça les effets de façon à ce que ce soit optimisé dans tous les sens. Donc voilà, tout ça c'est un peu pour les mécaniques globales. Pour moi c'est vraiment de l'optimisation pure. Après, si on vient chercher les jeux auxquels le Wingspan se rapproche le plus, on va retrouver Race for the Galaxy, qui est du tableau building. Et c'est ce qu'on retrouve dans Wingspan, parce que finalement on se construit un tableau avec des oiseaux qui ont des effets. Donc ça c'est ce qu'on retrouve dans Explorers the Galaxy ou dans Puerto Rico par exemple, qui sont d'ailleurs des jeux proches. Et la gestion de main qu'on retrouve aussi dans Explorers the Galaxy et dans Wingspan. C'est-à-dire que ça aussi c'est une grosse composante dans Wingspan, c'est-à-dire que il faut réussir à venir piocher beaucoup de cartes oiseaux pour pouvoir réussir à faire un jeu qui est cohérent, soit en accord avec les objectifs de la partie, soit avec les objectifs propres, soit en accord avec des effets qu'on essaie de déclencher, quoi.
Ouais.
Et il se trouve, en fait, j'ai parcouru quelques articles sur internet, parce qu'on va y revenir aussi après. Il y a eu pas mal d'articles sur le jeu. Il y a eu un article en particulier du Times, et dans lequel du New York Times, il y a plusieurs Times, c'est vrai, dans lequel en fait Elizabeth Hargrave précise que effectivement Race for the Galaxy est effectivement une inspiration du jeu. C'est-à-dire qu'en fait elle a voulu, au départ elle s'est dit c'est bizarre, il n'y a pas de jeu avec des thèmes un peu plus comme ceux que moi j'aime. Et en l'occurrence elle est fan d'oiseaux dans l'éthologie. Et elle s'est dit si on faisait un Race for the Galaxy mais version ornithologie, quoi. Ouais, c'est ça. Donc effectivement c'est pas trop mal réussi, parce que on retrouve cet aspect là, quoi. Et c'est sûrement un des éléments qui fait que j'aime beaucoup le jeu, parce que Race for the Galaxy est sûrement mon jeu préféré, ou en tout cas un de mes jeux préférés. Et j'ai trouvé aussi des similitudes avec alors peut-être un peu moins fort évidemment, mais avec Scythe. En gros, pour moi c'est une espèce de mash-up entre Race for the Galaxy et Scythe pour le côté amélioration des actions. Ça aussi j'ai pas encore expliqué, mais quand on va venir poser nos oiseaux en colonne et ensuite en croisement avec une ligne, en fait on vient en même temps renforcer l'action qui correspond à la ligne dans laquelle est posé l'oiseau.
Tout à fait, ouais.
Du coup, si je viens poser mon oiseau dans la ligne forêt qui correspond à l'action de nourriture, eh bien je vais pouvoir récupérer potentiellement plus de nourriture à chaque action que je vais faire dans la forêt. Et ça, c'est ce qu'on retrouve finalement dans Scythe, où quand tu vas jouer certaines actions, tu vas aller remettre des pions sur le plateau, et en mettant des pions sur le plateau, tu améliores en même temps l'action qui était derrière, en fait.
Et je me permettrais peut-être aussi de dire qu'il y a, enfin, je suis plus sûr, mais je crois que c'est dans Deus aussi, où il y a le fait que ben, plus tu joues de cartes dans une couleur, plus tu vas avoir d'actions en fait. Enfin, les actions vont se répéter.
Ouais, c'est vrai.
Et du coup, il y a ce côté-là aussi, le fait de plus tu joues de cartes dans une ligne, plus tu vas avoir une action forte, mais plus tu vas avoir aussi d'actions qui vont se déclencher, puisque tu reviens aussi sur toutes les cartes que t'as posées précédemment sur les actions quand elles ont des actions qui peuvent se faire. Donc il y a
ouais, le côté, en fait, tu joues les effets des cartes qui sont posées dans le
ouais, qui dans, ont la, été dans posées la couleur avant, quoi. Ouais. Mmh. Ouais.
Tout comme là, effectivement, quand tu joues dans la forêt, bah, tu rejoues les cartes, enfin tu joues les effets oiseaux, des ouais. cartes qui étaient dans la forêt. Ouais. Alors c'est pas, je précise quand même, c'est pas tous les oiseaux qui ont un effet qui fonctionne comme ça, mais c'est une grosse partie du jeu quand même, quoi.
Ouais, il y a des oiseaux qui ont des effets one shot qui sont ouais. actifs que quand tu les poses, et après, même si tu repasses dessus, il y a plus d'effet en fait.
Voilà, c'est ça. Donc voilà un peu pour les aspects comparatifs. Ce qui fait qu'au final on a un jeu qui est assez peut-être pas innovant, mais en tout cas qui est assez original. Il reprend des choses existantes, oui, mais c'est plutôt bien assemblé et du coup ça crée un feeling que moi j'apprécie pas mal. Je sais pas toi déjà juste déjà sur ces aspects-là, toi, ce que t'en as pensé. T'as fait une partie à Cannes, c'est ça?
Ouais, j'ai fait qu'une partie à Cannes. Je voulais me le procurer là, il y a pas longtemps, mais effectivement, il était déjà en rupture. Ouais. Ma partie à Cannes m'a plutôt bien convaincu. Moi, je suis assez friand des jeux d'optimisation. J'aime bien essayer de voilà de. Il y a forcément un côté un peu d'opportunisme aussi parce que tu dois optimiser par rapport à ce que t'as en main et par rapport à ce que tu pioches et par rapport à voilà à ce qui est disponible. Mais j'aime bien les jeux d'optimisation comme ça où faut réussir à faire le truc le mieux avec ce que t'as en main,
ce qui t'est donné, ce que tu pioches. Ouais,
ouais moi j'ai beaucoup aimé aussi cet aspect jonglage entre la montée en puissance des actions au fil des manches. Et voilà le petit jonglage de il faut que je récupère des cartes, il faut que j'essaye d'avoir mon objectif individuel, mais en même temps il y a d'autres manières de faire des points, donc si je fais plus de points en zappant mon objectif individuel mais en montant à fond certaines caractéristiques ou en posant plus d'oiseaux, voilà c'est vraiment tout le temps à chaque instant voir ce qui est le plus rentable, et il faut aussi réfléchir un peu à long terme par rapport aux objectifs, parce que ce qui est intéressant aussi c'est que les objectifs de chaque manche tu les connais à l'avance. Donc tu vas pouvoir gérer en fait le fait que ben je fais cet objectif là, mais il faut aussi que je pense aux objectifs du tour d'après, donc je vais commencer aussi à mettre des oiseaux de ce type, etc. Enfin moi j'ai fait qu'une seule partie, mais elle m'a plutôt convaincu, j'ai envie d'y rejouer, quoi, vraiment.
C'est vrai que t'as un côté assez vu à long terme sur les objectifs qui sont communs. T'as moyen effectivement de dès le départ de chercher des associations. En fait, sur les oiseaux, il y a plusieurs caractéristiques, je n'ai pas tout cité, hein, mais par exemple, il y a le nid, le type de nid. Et puis, donc tu vas avoir des objectifs typiquement qui vont être, je sais pas, au tour 1, par exemple, tu pourras avoir le plus d'oiseaux possible dans la ligne des forêts. Mmh. Voilà. Et puis, tu vas voir que à la manche, 3 ou 4, il faut que t'aies tel type de nid, par exemple. Dès le départ, tu vas peut-être t'arranger, si t'as le choix entre deux, en tout cas, d'aller poser un oiseau dans la forêt qui est avec le
bon type
de nid.
Ouais,
voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire par le côté optimisation. Il faut toujours chercher à faire en sorte que ton action, elle te fasse gagner sur plusieurs plans, quoi.
Ouais, tout à fait.
Et comme t'as plein de caractéristiques différentes, t'as toujours moyen de gagner sur deux ou trois plans. Et c'est ça au final qui va faire la différence. Je sais que il y a pas mal de gens qui ont critiqué le jeu sur le fait que il y avait un côté un peu à la fin tu sais pas trop pourquoi t'as gagné. Et en fait, quand tu fais plusieurs parties, tu te rends compte que c'est ça en fait qui fait que tu gagnes. C'est-à-dire qu'en fait, si tu joues pas sur un plan à chaque fois, faut toujours jouer sur deux voire trois plans.
Oui,
plus t'arrives à jouer sur plusieurs plans, et plus t'arrives à mettre de
à long terme. Ouais.
Et ben, enfin, c'est pas que sur les aspects d'objectifs, toi, qui effectivement se voient à long terme. Ça, c'est il y a d'autres aspects aussi. Voilà, enfin ça c'est un peu, c'est presque du conseil stratégique, mais bon. C'est pas trop ce qu'on fait d'habitude, mais bon voilà, bref, j'avais envie d'en parler, je trouvais ça, cet aspect-là assez intéressant. Pour entrer un peu, revenir un peu sur notre canevas de chronique classique, rentrer un peu sur la critique du jeu, Au niveau du matériel, c'est l'effet waouh, quoi. C'est-à-dire que ça, je pense que vous l'avez vu sur internet, les photos et tout, voilà, les gens présentent le jeu. Le jeu, il attire. C'est-à-dire que tu le vois sur une table, t'as une belle composition en 3D là, pour représenter une mangeoire dans laquelle on va lancer les dés, qui alors c'est même pas une tour à dés. Ouais, c'est ça, c'est clairement une tour à dés. Qui peut avoir l'air d'un gimmick comme ça, mais en fait quelque part ça a son importance, parce que il y a un côté où tu dois prendre les dés dans la mangeoire puis les mettre de côté, et t'as des effets qui font que tu dois lancer les dés qui sont hors de la mangeoire, tu vois. Donc c'est vraiment un élément ergonomique qui est pas si superflu qu'il pourrait en avoir l'air, quoi. Après, malgré, alors oui, il y a, voilà, bon, je vais pas forcément détailler parce que je suis sûr que les gens savent déjà. Bon, il y a des jolis petits œufs de couleur, machin. Là, les cartes, elles sont magnifiques, et les illustrations sont très belles.
Les petits œufs de couleur, c'est quand même un peu dangereux. On dirait un peu, tu sais, les petits œufs en sucre de Pâques. Là, donc,
oui, en plus, c'est la période.
T'as envie de les mettre, les mettre en bouche, quoi.
Alors, petite astuce, hein, ils ont un côté plat, hein, ceux-là. Oui. Voilà.
Ça permet de différencier les reconnaître. Les vrais œufs de Pâques.
C'est ça, voilà, ne pas mettre les deux en même temps sur la table.
Sur la table.
En même temps, on est d'accord, c'est pas terrible quand même, les petits œufs en sucre là, de Pâques.
Non. Ah, bon. C'est bon, quand t'es à une table de jeu, t'as envie de. T'as qu'une seule envie, c'est ça.
C'est ça, tu grignotes un peu quand
voilà,
même.
Voilà, c'est ça.
Et donc, ouais, pour revenir sur le matériel, alors c'est vrai qu'il a un côté vachement classe et tout, même le livret. En fait, alors, t'as peut-être pas eu du coup l'occasion d'avoir le livret en main.
Non, j'ai pas fait
le livret. Il est fait avec un papier, enfin, en tout cas, la couverture, parce que les pages à l'intérieur, les pages à l'intérieur aussi, il est fait avec un papier qui fait légèrement, je sais pas, gaufré, tu vois.
Ah ouais.
Du coup, il y a une texture, quoi, sur le papier, qui est vraiment, qui fait classe, quoi, en plus. En plus de la belle mise en page. Mais à côté de ça, tu vois, il y a des petits trucs à la con qui font que le jeu est finalement pas si irréprochable que ça. Alors, t'as le petit plateau des objectifs que t'as dû ouais. remarquer pendant ta partie à Cannes là, qui fait un peu cheap du coup par rapport au reste. En fait, c'est surtout par rapport au reste en fait, quoi, parce que du coup, c'est vrai que c'est pas un petit plateau cartonné, c'est du papier cartonné, quoi. C'est pas de la tuile, quoi. Voilà. T'as les cartes qui sont en fait elles sont incurvées dans le paquet. Alors c'est un truc, c'est con, mais en fait pour un jeu qui est essentiellement basé sur des cartes, si tu veux, elles font j'exagère, hein, mais elles font comme un U, quoi.
Ah bon,
les cartes, ce qui fait que
j'ai pas remarqué.
Ouais, ce qui fait que du coup quand tu poses les cartes en dessous des autres, et ben elles ont tu vois, elles sont pas plates, quoi.
Mais c'est dû à quoi?
C'est un petit détail,
que, enfin,
à l'usine chinoise.
D'accord, parce que sur la version à laquelle j'ai joué à Cannes, j'avais pas l'impression que c'était le cas. Ça, enfin, ça m'a pas choqué, en tout cas.
Ouais,
les cartes sont placées bien en dessous.
J'avoue que ça m'a pas marqué non plus à Cannes. Alors, est-ce qu'ils les ont
peut-être
redressé, je sais pas.
Mais c'est général ou c'est peut-être ta boîte qui a eu un petit défaut ou un truc comme ça, non?
J'en ai parlé sur Twitter. Il y en a qui m'ont dit oui, mais bon, moi ça m'a pas gêné. Donc voilà.
D'accord.
Petite remarque, hein, c'est pas.
Ouais.
Mais bon, dans un jeu essentiellement basé sur les cartes, c'est un peu dommage.
C'est sûr.
Et puis dans le, alors là c'est pareil, hein, vous allez encore dire que je pinaille, mais dans la boîte il y a des petites boîtes de rangement en plastique qui sont les mêmes boîtes, je crois, qui étaient utilisées dans
Scythe, ouais.
Que personnellement je trouve pas pratique du tout à ouvrir et tout, bon bref. Mais en fait dans la boîte il y en a 4. Et en fait c'est là que j'ai trouvé ça un peu chelou, parce que le premier réflexe que j'ai eu, c'est bon, je vais ranger quoi dedans. Et j'ai regardé, il y a 5 joueurs, donc il y a 5 couleurs. Il y a 5 types de nourriture. Il y avait, je sais pas, tu vois, j'ai les œufs. Il y a 5 couleurs d'œufs différentes, tu vois. Tout est par 5, en fait. Et
ouais,
du coup,
alors,
tu mets...
Mais si c'est comme dans Sight, en fait, le truc, le but, c'était pas forcément du rangement. Enfin, c'était pas prévu comme du rangement. C'est plus prévu comme une espèce de cup dans lequel tu mets les éléments pendant le jeu. Et du coup, le couvercle et la base servent, en fait, tu vois. Donc, t'as 8 espèces de petites cup que tu peux utiliser pour mettre des œufs, de la bouffe, etc. un peu à chaque bout de la table. Mais dans Scythe, tu vois, il disait qu'il y en avait un certain nombre et que voilà, c'était juste que tu pouvais en acheter d'autres, etc. Que c'était juste voilà pour faire une petite coupe de stockage pendant la partie, mais c'était pas précisé comme étant du rangement dans la boîte, quoi. Alors je sais pas si c'est différent dans Wingspan du coup.
Non, mais globalement, je pense que c'est ça. Ils précisent pas l'utilité du truc. Il y a un plan, en revanche, pour expliquer le rangement. Et du coup, ils te disent, je sais plus, ils te disent ce qu'ils mettent dedans, mais bon, au final, je le respecte pas parce que j'aime pas trop mélanger les éléments. Voilà, j'ai juste trouvé ça vraiment bizarre. Enfin, moi, j'aurais vraiment pas fait comme ça, quoi. Enfin, soit je les mets pas, soit j'en mets 5 parce que tout marche par 5. Donc, bon, voilà. Mais effectivement, oui, pour répartir autour de la table. Au final, c'est un peu ça qu'on fait. Moi, je les utilise plutôt en fait pour les joueurs, en final, parce que comme ça, ils ont leurs petits cubes et puis tu les as dedans et tu les ressors pour jouer, quoi. Bon, bref. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est les petites critiques, juste pour dire que voilà, c'est finalement rien n'est parfait, quoi.
Enfin, ça joue toujours à des détails, quoi.
Voilà, ça reste des détails. En termes de mécanique, on va retrouver. Bon, j'en ai déjà pas mal parlé, hein, mais il y a des sensations de jeu. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de jeu à moteur, de jeu de développement, enfin de jeu à moteur et de jeu à combo. Mmh. Alors déjà, c'est pas toujours évident de placer ce qu'est un jeu à moteur. Je trouve que c'est pas forcément voilà. En tout cas, on n'est pas dans du Splendor, parce que les jeux à moteur, c'est clairement Splendor, Majesty, Century. On n'est pas là-dedans parce que t'as pas une espèce de ligne droite directrice. Toi, dans le jeu à moteur, pour moi, c'est t'as un cercle qui tourne et un seul, quoi. Là, ouais, t'en aurais potentiellement plusieurs, en fait, qui s'imbriquent les uns dans les autres. Donc, on est dans quelque chose d'une mécanique un peu plus complexe, quoi.
Mais t'as un peu le côté monté en puissance que tu peux avoir dans les jeux à moteur. Voilà, c'est ça. Plus ça avance, plus tu peux faire des actions puissantes et plus tu avances vite, en fait.
Oui.
Ce côté d'entraînement plus que moteur,
ouais. Ouais, mais c'est pas fou non plus, hein. Parce que ce que t'as aussi souvent dans les jeux à moteur, c'est que t'as un côté emballement, tu vois.
Oui.
Et vraiment emballement, et genre, tu sens que si tu faisais un tour de plus, tu faisais un truc, mais de malade, genre tu fais x2 sur ton score, tu vois. Là, c'est pas ça.
Non, c'est pas le cas. C'est plus ténu.
Voilà. Enfin, encore que, ouais. Je dis un peu des conneries, parce que dans Century peut-être, mais dans Splendor, t'aurais pas forcément.
Oui, tu doubles pas ton score, effectivement.
Après combo, alors oui, c'est de la combo légère, quoi. C'est pas du combo, c'est pas magic, quoi.
Mais, non, clairement pas.
Mais il y a un côté effectivement où t'enchaînes, tu déclenches une action. Au début, elle fait pas grand chose, puis après tu déclenches la même action, elle fait un truc plus un autre truc, et ainsi de suite, quoi.
Voilà, ouais, il y a cet aspect-là. Il y a des synergies aussi dans l'ordre dans lequel tu places tes oiseaux, puisque enfin, il y en a un qui peut te rapporter un œuf, l'autre qui te permet de défausser un œuf pour gagner je sais pas quoi. Enfin, il peut y avoir une certaine synergie entre les actions si tu les places dans un certain ordre.
Ouais, il peut y avoir une séquence plus intéressante qu'une autre, quoi. Voilà. Après, il y a clairement un aspect de développement, et là du coup on revient sur Race for the Galaxy typiquement. Voilà.
Ouais.
Mais encore une fois, optimisation, c'est vraiment pour moi, c'est le maître mot de ce jeu.
Oui, c'est essentiellement ça, ouais. Mais avec toutes les petites composantes qu'on a dit, qui fait que c'est qu'il y a des choses très intéressantes quand même dedans, quoi.
Ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est que c'est pas un jeu avec des ouvertures, c'est-à-dire que t'as pas des trucs qui sont je sais pas, en fait. De loin, on pourrait se dire, en fait, voilà, l'ouverture la plus efficace, c'est placer un oiseau dans la forêt au départ. Parce que derrière, tu places un oiseau dans la forêt, derrière, tu peux récupérer de la nourriture pour poser d'autres oiseaux. Et en fait, tu te rends compte que, en fait, non, selon les cas de figure, selon ce que tu as récupéré en main au départ, selon les objectifs, etc., en fait, toutes les ouvertures sont possibles. Donc, du coup, j'appelle plus ça de l'ouverture, du coup. C'est-à-dire que. Que ça soit poser un oiseau ou faire une action, ça peut être aussi rentable de ne pas poser d'oiseau dès le départ, et puis ça peut être rentable de le poser à un endroit différent selon le cas de figure, quoi.
Ouais, c'est l'intérêt des actions, c'est assez équilibré, il n'y a pas une séquence type pour bien commencer, quoi.
Non, et c'est pareil dans le jeu, j'ai déjà joué en jouant beaucoup sur la forêt ou beaucoup sur sur les trois environnements. Et ça marche, quoi. Il n'y avait pas de stratégie perdante là-dedans, quoi. On voit que ça a été réglé au millimètre, quoi.
Ouais.
Et d'ailleurs, oui, ils en parlaient aussi dans l'article du New York Times. Apparemment, la nana, elle est aussi, donc Elizabeth Hargrave, elle est aussi assez fan de tableur Excel. apparemment, quand elle a présenté le jeu au départ, elle a présenté aussi le tableur Excel. Et c'était le machin, genre avec 200 colonnes, 100 lignes, tu vois, enfin, le truc, waouh.
Jimmy, ouais, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas.
Jimmy Steinmeier, elle a fait OK, c'est bon, je signe. Clac. Je pense que ouais. Alors, on peut parler de l'adéquation avec le thème aussi.
Mmh,
alors, j'ai entendu pas mal de gens dire ouais, le jeu il est hyper thématique. Alors là, je vais mettre des pincettes. Il est thématique sur les effets des oiseaux et sur voilà, le matériel et tout ça. Mais en fait, la mécanique, elle a rien de thématique. Quoi. Je pose des oiseaux dans des milieux avec, tu vois, je récupère des os, des machins. Mm. Non, quoi. C'est, tu vois, l'adéquation thème mécanique, elle est pas là. C'est une adéquation thème effet et thème le côté encyclopédie du jeu, tu vois, c'est-à-dire qu'en fait les noms des oiseaux c'est les vrais noms des oiseaux, les illustrations c'est une vraie représentation des oiseaux tels qu'ils sont,
oui tout à fait,
voilà, et puis il y a un petit texte, j'allais dire un texte d'ambiance, tu vois, des formations
explicatif ouais sur l'oiseau, ouais. Une petite caractéristique particulière de l'oiseau quoi,
et qui explique souvent l'effet qui a été donné à l'oiseau. Et ça c'est vachement chouette, je trouve, en revanche. Chouette. Ah, elle est bonne.
Bah après, il y a tout ce qui est type de nid et zone aussi, enfin, milieu dans lequel tu peux le placer, qui est cohérent aussi par rapport voilà. À ça, quoi.
Mmh. Ah, c'est ça. C'est, en fait, tous les éléments, en fait, qui sont écrits sur les cartes sont, ont été vérifiés, sont des vraies données. Elizabeth Hargrave s'est basée sur une base de données qui s'appelle eBird, qui est un projet nord-américain, voilà, qui recense toute la connaissance sur les oiseaux d'Amérique du Nord. Et donc elle s'est basée là-dessus pour faire ses cartes, quoi. Et ensuite pour équilibrer le jeu avec son magnifique tableur Excel, visiblement. Donc il y a eu vraiment un gros travail sur ces aspects-là. Voilà.
Je suis d'accord. L'adéquation thème mécanique, oui, effectivement, c'est pas une adéquation de la du thème avec la mécanique, mais il y a une telle cohérence entre tous les éléments du jeu par rapport à la thématique qu'il y a quand même une sensation de, tu vois, de. Effectivement, la mécanique pourrait exister avec une autre thématique, mais la thématique est tellement cohérente avec tous les éléments du jeu les uns par rapport aux autres. Que finalement, je comprends ceux qui ont un ressenti d'adéquation avec le thème.
Mmh. En fait, c'est cohérent avec les détails, en fait. C'est ça qui est un peu. C'est juste ça que je veux mettre en lumière, c'est que, attention, c'est pas. Tu vas pas intuitivement savoir jouer au jeu. Tu vois, c'est pas cette oui. cohérence thème mécanique-là. Mais si tu regardes, si tu connais l'oiseau, en fait, par exemple, si t'es ornithologue et que tu connais l'oiseau, je sais que j'ai joué avec mon beau-père qui est un fan d'oiseaux, et à un moment il m'a dit, bah oui, cet oiseau-là, effectivement, il pond ses œufs dans le nid d'un autre, quoi. Et donc, effectivement, c'est l'effet de l'oiseau. Ou celui-ci, il va, je sais pas s'il m'a sorti, bref. Voilà, donc il savait que tel oiseau, donc si t'as cette connaissance-là, tu peux avoir intuitivement l'effet de l'oiseau. Mais encore faut-il avoir la connaissance, et bon, on est quand même sur une population assez restreinte. Mais du coup, ouais, les gens qui s'intéressent à l'ornithologie, là, c'est du caviar, quoi.
Ouais, c'est
c'est juste génial, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que ils ont même poussé le truc jusqu'à. Alors là, c'est avec le pionfesseur, on a fait une partie. En fait, on a mis le doigt sur un truc. On a fait, mais à un moment, il me dit, mais en fait, cette action-là, c'était les actions de nuée, je crois, avec les actions qui. Alors les actions de nuée, pardon, c'est des actions qui font que tu fais tel effet, genre tu payes, je sais pas quoi, et puis tu as le droit de mettre des cartes en dessous de ton oiseau. Et puis t'as d'autres actions, c'est tu fais je sais pas quoi et tu peux mettre des jetons nourriture sur ton oiseau.
Oui.
Et en fait, bah en vrai, mécaniquement, si c'était un autre jeu, t'aurais pas eu deux types d'actions comme ça. T'aurais pas oui. eu d'effet de nuée et d'effet de, je sais pas comment ils appellent ça, de nourriture.
Oui, parce que ça me met, ça sert en même, en fait. Ça fait,
c'est
ça,
ça
fait
pareil, en fait.
Quoi.
C'est ça, ça fait pareil, en fait. C'est, tu vois. Et puis, ça veut dire, ça change rien au jeu. C'est pas parce que tu prends une carte pour faire un point ou tu prends une nourriture pour faire un point que tu vas priver les autres d'un truc, en fait, tu vois. Donc, c'est vraiment pareil. Sauf que, bah, pour respecter le thème, t'as deux solutions ergonomiques qui sont adoptées. Et ça, je trouve ça quand même assez fou, quoi. C'est ouais. être allé dans ce niveau de détail, c'est assez assez inédit, je pense.
Mais c'est là où je dis que en fait, l'adéquation thème mécanique, elle est dans la cohérence de tous ces détails là, quoi. Ça rend quand même une impression de voilà de d'adéquation et de cohérence, en tout cas entre ce que tu fais et le thème.
Donc ça, c'était pour les aspects thématiques. En termes d'interaction et de sensation de jeu, bon, sur les sensations de jeu, je vais pas y revenir, je pense que je suis allé suffisamment dans le détail. En termes d'interaction, ça aussi, c'est un gros reproche qui a été fait au jeu. Faut avouer qu'on joue globalement dans son coin, surtout si on joue, alors en fait il y a deux faces pour
ouais,
les objectifs
dire.
De fin de manche. Il y a la face avec laquelle j'avais joué à Cannes, qui est en gros plus j'en fais plus
la
je marque de points,
la face gentille,
voilà, c'est la face gentille, la face zéro interaction. En gros, je remplis l'objectif une fois, je marque un point, je remplis l'objectif jusqu'à 5 fois, c'est le max, je gagne 5 points et tout le monde est logé à la même enseigne. Et il y a une face qui fonctionne avec un système de majorité et qui là va beaucoup plus te forcer à regarder ce que font les autres et va amener une dynamique de course, en fait,
ouais.
pour les majorités. Alors course majorité, hein, parce que faut être le premier, c'est pas le premier à arriver, mais c'est plutôt celui qui fait le plus vite. Je sais pas, par exemple, poser des oiseaux dans la forêt, ben faut que t'aies un rythme de pose qui soit plus élevé que les autres, quoi.
Ouais. Ouais.
C'est pas de la course avec l'objectif, la ligne d'arrivée, quoi. C'est plutôt une question de rapidité, on va dire. Et là, du coup, ça ajoute un niveau d'interaction que je trouve suffisant pour ce type de jeu. Après, bon, bah voilà, chacun voit midi à sa porte, hein, évidemment. Mais là aussi, ça vient rapprocher le jeu de Race for the Galaxy. Dans le Race for the Galaxy de base, l'interaction elle est énormément dans le guessing. Donc il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas d'interaction non plus dans Race for the Galaxy, c'est totalement faux, mais voilà, c'est quand on joue beaucoup, on se rend compte qu'il y en a. Quand on joue avec la première extension de Race for the Galaxy, ça ajoute des objectifs et on est pile là-dedans, en fait, on est pile dans ce niveau d'interaction là, mais il n'y a pas le côté guessing qu'on a dans Race for the Galaxy. C'est pour ça qu'on est finalement on se retrouve un peu en dessous de Race for the Galaxy avec sa première extension. Il y a des éléments aussi où il faut surveiller la mangeoire. Donc, bon, je suis pas rentré dans le détail non plus là, mais en gros il y a 5D qui affichent des phases de nourriture différentes. Donc il y a des types de nourriture différentes qui eux aussi correspondent aux vraies nourritures des oiseaux. Et en gros il y a de l'aléa sur cet aspect là. Il faut regarder un peu l'état de la mangeoire, parce qu'au bout d'un moment, une fois que les 5D ont été pris ou que dans certaines circonstances on va pouvoir relancer les dés, et donc il faut faire un peu attention à ça, faire en sorte que soit les adversaires ne puissent pas relancer les dés, ça pourrait les arranger, soit faire en sorte que on puisse soit temporiser des actions, etc., pour arriver à un moment où peut-être on pourrait avoir la bouffe qui nous intéresse, quoi. C'est pas fort non plus comme interaction, mais voilà, il y a ça. Et puis il y a aussi la surveillance à avoir sur les effets d'entre-deux tours. Là aussi, donc j'ai introduit une nouvelle notion. Il y a des effets, comme on a expliqué, d'activation sur les oiseaux, donc qui s'activent quand on joue dans la ligne de l'oiseau. Et il y a des effets qui s'activent quand les adversaires font des choses. Et ça, ça peut aussi être pas mal intéressant de jouer sur des stratégies un peu comme ça, où on va jouer sur ce que les autres vont faire. Et quand on a plusieurs effets qui se combinent sur le même la même action d'un adversaire, ça peut être assez violent aussi. Hein. Bon, encore faut-il que ça tombe bien, mais. Et je sais que typiquement, quand tu as un adversaire qui a un effet d'entre-deux tours que tu vas activer, des fois tu y infléchis à deux fois, quoi. Selon ce qu'est l'effet, selon s'il l'a en double par exemple aussi, tu vas te dire attention, mon action est peut-être moins rentable que le bénéfice que je vais lui offrir, quoi.
Ouais, effectivement.
Voilà, tout ce genre de choses. Alors c'est ça joue beaucoup dans la subtilité, l'interaction, en fait. Hein. Ça joue aussi sur le long terme. Plusieurs, faut avoir fait plusieurs parties pour rentrer un peu dans ces aspects-là, quoi, pour se rendre compte aussi de tout ça. Parmi les reproches aussi qui ont été faits au jeu, il y a le hasard. Le hasard donc des dés de la mangeoire qui peut être un peu violent, ça c'est, je suis assez d'accord quand même des fois, et le hasard des cartes, et il faut avouer que là-dessus sur les cartes, là c'est un défaut je trouve quand même au jeu, c'est que ok il y a du hasard, on peut maîtriser un peu, je sais que moi j'aime bien du coup m'arranger pour avoir des effets de pioche, mais si tu pioches pas les oiseaux qui te donnent les effets de pioche, tu peines un peu, et des fois tu peux avoir l'impression de faire des actions pour rien, quoi. Tu peux avoir un côté un peu comment dire, une mauvaise impression, tu vois, parce que tu subis beaucoup. C'est le plus gros reproche que je fais au jeu. Non, il y en a un autre qui viendra après. Sur les effets de pioche, je trouve que finalement ils sont pas assez forts, les effets de pioche. Devant toi, t'as trois oiseaux qui sont mis à disposition. Les trois quarts du temps, ils intéressent personne, donc du coup ils tournent pas. Du coup, tu te retrouves à piocher sur le tas face cachée. Et du coup, tu vas à l'aléa complet, quoi. Alors ça, par exemple, dans Race for the Galaxy, tu peux avoir cette impression-là aussi, mais t'as beaucoup d'effets de pioche. Tu peux vraiment jouer beaucoup sur la pioche, en fait, dans Race for the Galaxy. Et c'est t'as plusieurs actions qui te permettent d'aller agir sur la pioche. Et là, t'en as pas beaucoup, quoi.
Alors moi, j'ai fait qu'une seule partie, mais ça fait aussi partie des jeux comme ça d'optimisation, de faire le mieux que tu peux avec les éléments que t'as, quoi. Et
ouais,
pour moi, ça fait partie du charme du jeu aussi, de pas avoir une route toute tracée et de se dire c'est bon, je fais ça, mais de se dire là je peux pas faire ce que j'aurais voulu faire, il faut que je trouve un autre moyen de quand même réussir à faire des points, etc. Et moi, c'est ce que je trouve intéressant dans ce genre de jeu aussi, c'est que t'as pas besoin, enfin, tu tombes pas dans un espèce de train-train à suivre ton habitude, ta route tracée, tu sais que tu vas faire ci, ça, etc. Là, t'as ce hasard des cartes qui fait que tu dois t'adapter assez régulièrement, et moi je trouve plutôt que c'est plus intéressant que si tu pouvais totalement contrôler ce que tu allais piocher et ce que tu voulais avoir. Enfin, si à chaque fois que t'avais ce que tu voulais avoir, j'y verrais moins d'intérêt, justement.
Oui, sauf que encore une fois, pour jouer beaucoup à Race for the Galaxy, dans Race for the Galaxy, t'as cet aspect-là aussi. Tu as énormément de stratégies possibles. Tu peux piocher des cartes et pas avoir ce qu'il faut et tout, mais t'as beaucoup plus d'effets de pioche. Et du coup, tu peux quand même aller au charbon pour quand même réussir à faire ta stratégie, quoi. Là, tu peux aller au charbon et des fois, et quand même pas réussir à faire sa stratégie. Et si tu fais pas ta stratégie, t'es quand même ça devient quand même tendu, quoi. Tu peux te retrouver quand même à faire ta partie sans ton objectif caché. Enfin, tu vois, tu peux avoir, par exemple, je sais pas, j'ai dit une connerie, il te faut 4 oiseaux avec un nid en forme de couple, hein, je sais pas comment ils appellent ça. Et admettons, t'en as 2 au départ. Tu pars là-dessus, puis après, t'as beau piocher, t'en as pas, ou qui ont des coûts de pose énormes, ou tu vois, parce qu'il y a aussi beaucoup de facteurs qui vont rentrer en ligne de compte.
Oui.
Voilà, donc tu peux subir ça. Globalement, en général, je le vis bien, mais je dois à faire le comparatif avec Race for the Galaxy, je trouve que du coup le jeu il pêche vraiment, par exemple, sur cet aspect là quoi.
D'accord.
Et dernier point sur lequel je trouve que le jeu pêche aussi pas mal, c'est le temps de jeu. Le temps de jeu, il t'a dans 60 minutes sur la boîte. 60 minutes, tu les fais à 2, tu les fais à 3, ça commence déjà à devenir chaud. Mais alors au-dessus, tu les fais pas, quoi. Enfin, à 4, c'est 1h30, et 5, en fait, à 5, j'ai pas encore joué. Mais je pense pas que j'essaierai à 5. Et du coup, pour le temps de jeu, le jeu, il se trouve un peu cul entre deux chaises, quoi. C'est-à-dire que il est peut-être pas assez complexe pour le temps de jeu qu'il impose, et en même temps, il est pas assez léger pour réussir à rentrer sous l'heure, quoi. Alors, sauf à jouer vraiment bourrin, à pas lever la tête, et peut-être du coup à jouer sans les majorités, tu vois. Mais même en jouant sans les majorités, c'est difficile de rentrer sous l'heure à 4 joueurs. Hein.
Ouais. Encore une fois, je pense que ça dépend des joueurs. Nous, on a joué à 5, du coup j'ai joué à 5 à Cannes. Et donc, hors explication de règles, etc., on a mis 1h30 pour une première partie. Donc je me suis dit que à 3 ou 4, quand tu connais bien le jeu, tu dois réussir à tenir en 1h, 1h15, quoi. Mais encore une fois, ça dépend pas mal des joueurs, je pense.
Mais pour le coup, j'y ai joué quand même avec pas mal de gens différents, donc les retours sont assez. Je sais que globalement, je suis plutôt assez lent comme joueur, mais là, pour le coup, sur Twitter, les gens ils sont assez unanimes sur le truc, quoi.
Sur la longueur. Hein.
Voilà. Ça je trouve vraiment ça dommage quand même, parce qu'encore une fois je vais faire un parallèle avec Rise of the Galaxy. Dans Rise of the Galaxy tu joues à 4, tu le tires dans la demi-heure quoi, et t'as une plus grande profondeur de jeu, c'est beaucoup plus nerveux, etc. Après le thème c'est pas le même, et ça je pense qu'aujourd'hui ça compte énormément. Puis il y a d'autres choses encore sur lesquelles je vais venir ensuite. Je vais juste finir du coup sur les aspects un peu techniques du jeu. En termes de configuration de jeu, il y a, donc on l'a dit, ça joue de 1 à 5 joueurs, donc on peut jouer à 1 avec une variante solo à base d'automa. C'est les mêmes auteurs de l'automate, c'est les mêmes que ceux de Viticulture. J'ai pas vérifié, mais je pense que c'est les mêmes que ceux de Sight aussi. Enfin, ceux qui connaissent, voilà. Je pense que du coup, c'est l'équipe qui travaille avec, pour Stonemaier.
Ouais.
Il y a déjà une extension qui est prévue. Je sais pas ce qu'elle contient, mais elle est prévue pour genre fin 2019. Elle a été annoncée par Stonemaier. Bon, après la version française, je sais encore pas, ça sera sûrement un peu après, ou pas, même bref. Et il y a une extension fan-made qui a été faite sur BGG, je mettrai le lien, mais je trouve ça assez fou quoi. Avec des effets différents, des types d'objectifs différents, enfin bref, j'ai jeté un coup d'œil juste comme ça. Bon, c'est tout en anglais, hein, le boulot que le mec a fait, ça a l'air hallucinant quoi. Avec des oiseaux en plus d'Europe, je crois, du coup. Bref, voilà.
D'accord.
Ce qui est intéressant à noter aussi, c'est... pour mon avis, je pense que j'en ai assez parlé. Donc, j'ai un super bon feeling avec le jeu. C'est un jeu que je vais garder, je vais apprécier de le ressortir, etc. Je trouve que c'est ultra bien équilibré. Je trouve juste que c'est trop long. Et ça a un côté trop hasardeux. Globalement ça va déplaire à beaucoup de gens pour ça. Moi j'arrive à m'en contenter, mais je pense que ça va déplaire quand même à beaucoup de gens à cause de ça. Et ça a quand même une interaction qui est légère. Faut jouer avec si vous voulez un peu d'interaction, faut jouer avec les majorités, soyez obligé. Mais surtout, c'est le dernier volet que je voulais aborder parce que j'ai trouvé ça quand même intéressant. C'est un jeu qui est fait par une femme, qui est une féministe revendiquée, qui est illustrée par 3 femmes, qui a été énormément mis en avant sur cet aspect féministe. Il est sorti, alors là on pourra dire soit c'est du marketing, soit c'est je sais pas, mais bon voilà, soit c'est du féminisme, soit c'est du marketing, soit c'est peut-être un peu des deux, mais le jeu est sorti le jour des droits de la femme, donc le 8 mars si je dis pas de bêtises. Sortie internationale, je dis pas de bêtises non plus. Et rien que pour ça, je trouve que la démarche était intéressante. On est sur un jeu qui a son originalité, je l'ai dit, mais qui en plus s'impose vraiment comme un jeu féministe par son autrice, par ses illustratrices. Ça a été voulu comme ça, par son thème qui est plutôt zen, plutôt voilà. Le jeu il a quand même été tiré à 45 000 exemplaires monde sur le démarrage. C'est quand même un gros jeu, hein, c'est 50 balles quand même, c'est pas forcément fréquent. Alors c'était, je crois que c'est 30 000 aux États-Unis et le reste est réparti sur le reste. Donc du coup ça doit pas faire beaucoup, hein. Je pense que à mon avis Metago ça doit être 1000 exemplaires du coup quoi. Donc on comprend aussi que ça a été vite en rupture. J'ai pas les chiffres, hein. Je dis ça un peu à la louche, mais bon, quand on est à 30 000 États-Unis et 14 000 pour le reste du monde, faudrait vérifier le nombre de versions, mais du coup, je pense qu'il doit pas être super super loin, quoi. On est entre 2 et 2000, quoi. Entre 1000 et 2000, quoi. Voilà. Et rien que pour ça, du coup, ça vaut le coup aussi de s'intéresser au jeu, parce que c'est un jeu qui est quelque part qui est engagé.
Ouais.
Et l'autrice est déjà à d'autres jeux en préparation, elle a 2 autres jeux en préparation qui ont l'air aussi de s'inscrire dans cette démarche là. Voilà.
Très bien.
Je sais pas ce que tu veux ajouter, toi.
Bah non, pas grand chose à rajouter, étant donné que j'ai fait qu'une seule partie, j'ai hâte d'en refaire une. Pour confirmer un peu ce que j'ai ressenti à ma première partie, mais plutôt que du positif pour le moment.
Mmh. Ouais, bah ça a beaucoup plu au reste de la team aussi. Hein.
Tout à fait.
On en a pas mal reparlé avec Astien qui est venu y jouer. Hein. Lui il trouve pour le coup Gizmos par exemple plus intéressant. Je pense que Gizmos est beaucoup plus combo parce que typiquement Astien il dit ouais c'est un jeu de combo, Wingspan, mais ouais, c'est combo en demi-teinte quoi en vrai.
Oui.
Donc bref voilà. Si ça vous intéresse ou si vous êtes féministe dans l'âme, vous pouvez aussi soutenir la démarche quelque part. Hein. Voilà, c'est pour ça que je voulais aussi en parler. Je vais refaire la fiche analytique parce que j'ai été quand même super long. Je suis désolé. L'autrice c'est Elizabeth Hargrave. Les illustratrices sont Beth Sobel, Anna Maria Martinez Jaramillo et Natalia Rojas. L'éditeur c'est Stonemaier Games pour la version originale et Matago pour la localisation en français. C'est pour 1 à 5 joueurs, c'est annoncé pour 60 minutes, mais je vais plutôt vous dire 90 ou 60 à 2 joueurs. Du coup, effectivement, moi je vous recommande plutôt d'y jouer alors, soit à 2, mais on perd le côté. Je trouve qu'on perd un peu sur les effets d'entre-deux tours. Soit 3, je pense que 3 du coup c'est une bonne config parce qu'on doit rester à peu près à l'heure. Et on bénéficie quand même de l'effet d'entre-deux tours sur deux joueurs. Donc, ils se déclenchent potentiellement plus souvent quand même. Et puis les majorités sont aussi un peu plus intéressantes qu'à deux joueurs, quoi, je trouve. Donc c'est à partir de 10 ans, ça je pense que ça respecte à peu près l'âge. Même si pour bien jouer à mon avis il faut être au-dessus. Encore une fois pour les côtés optimisation dans tous les sens. C'est 49,90€ chez Philibert et ça revient au mois de mai.
Très bien.
Ah ben alors, je te laisse passer à Farben.
Eh bien, passons à Farben. Alors, Farben, l'auteur est aussi une autrice, puisque c'est un jeu d'Apolline Jove. C'est édité par Actin Game. Alors c'est illustré, illustré c'est un bien grand mot, on y reviendra, mais c'est 101 Coding und Design qui est crédité sur la boîte. Donc j'ai regardé, en fait c'est un graphiste autrichien a priori, c'est son nom de code un petit peu. C'est pour 3 à 5 joueurs à partir de 10 ans et pour des parties de 45 minutes environ. Et c'est disponible chez Philibert pour la modique somme de 11,50€. Donc on est sur un jeu un peu plus léger et un peu moins cher que Wingspan.
Voilà, il y en aura pour toutes les bourses. Mais il y a en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a pour les féministes ce soir.
C'est ça. Alors Farben, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu, déjà, comme son nom l'indique, pour ceux qui parlent allemand, petite dédicace à notre ami Hammer. Farben, ça veut dire couleur en allemand. Donc en effet c'est un jeu dans lequel il va y avoir des couleurs, c'est un jeu dans lequel il va y avoir des mots, c'est un jeu dans lequel il va y avoir des histoires, c'est un peu un mélange en fait de jeux narratifs, de jeux d'ambiance et de jeux de mémoire. C'est assez intéressant, enfin on y reviendra tout à l'heure, mais c'est une catégorie un peu à part entière parce que c'est un feeling assez particulier. Mais en gros, qu'est-ce qu'il faut faire dans Farben ? Eh bien, dans Farben, les joueurs vont se mettre autour de la table. C'est un jeu de 3 à 5. On va tirer 10 cartes avec des mots dessus. D'accord ? Il y a différents mots. Il peut y avoir vacances, règlement, trahison. Enfin, c'est tout un tas de mots de ce style-là.
Qui sont plutôt des mots, pas des trucs super concrets en général.
Non, enfin, c'est assez... Voilà, ça peut être très concret, hein. Il y a des trucs genre, j'en prends quelques-unes, là, il y a des trucs genre ville, il y a musique, il y a... Enfin, c'est comme des thèmes assez ouverts.
C'est rarement des objets, quoi.
C'est des thèmes plutôt ouverts. Hein. Fragilité, bienveillance, détente, voilà, c'est ce genre de mots.
Des concepts.
Des concepts, tout à fait, des concepts assez ouverts. Donc on va tirer 10 cartes mots comme ça. Donc les cartes, en fait, elles sont recto verso, il y a un mot sur chaque face. Et les joueurs, en fait, eux, vont avoir un deck de cartes en main, un paquet de cartes en main, sur lequel il va y avoir des couleurs différentes. Il y a 12 couleurs différentes. Enfin, il y a plutôt.
Il y a 11 couleurs. Enfin.
Il y a 9 couleurs, du noir, du blanc et du multicolore.
Ah, c'est bien, toi aussi, tu sais que le blanc et le noir ne sont pas des couleurs.
Tout à fait. Voilà, il y a 9 couleurs plus noir, blanc et multicolore. Donc, on a 12 cartes en main comme ça avec ces différentes couleurs. Et en fait, à chaque tour de jeu, il y a un joueur qui va piocher une des cartes mots. Il va choisir entre les deux mots qu'il y a sur les deux faces. Il va la mettre au milieu de la table. Par exemple, il choisit ville. Et donc, chaque joueur va devoir secrètement choisir une couleur qui lui fait penser à ville, la mettre face cachée sur la table, simultanément. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, chacun son tour, on va révéler sa couleur et on va raconter pourquoi ce mot nous fait penser à cette couleur. Donc, on va raconter une petite histoire, etc. Puis quand tout le monde aura raconté son histoire, à ce moment-là, il faut être assez attentif à ce que les gens racontent. Quand tout le monde aura raconté son histoire, on va reprendre les cartes, on va les remettre face cachée et on va les mettre en tas au milieu de la table avec le mot au-dessus. Et on va faire ça 10 fois avec les 10 mots. Donc à la fin de la partie, on aura 10 paquets de cartes avec les couleurs que chaque joueur a indiqué avec sa petite histoire pour chacun des mots. Une chose intéressante aussi, c'est qu'au fur et à mesure que les mots arrivent, on a de moins en moins de choix dans sa main, puisqu'on ne repioche pas de cartes de la couleur qu'on vient de jouer. On peut ne jouer qu'une seule fois par partie chaque couleur. Et à la fin du jeu, quand on aura joué donc 10 cartes sur les 12 qu'on a en main, eh bien il va falloir se souvenir des couleurs que les gens ont jouées pour chaque mot. Donc on va pas choisir les mots desquels on veut se rappeler, hein. On n'a pas à se rappeler forcément de tout, mais en fait c'est le joueur à sa droite qui va à chaque fois choisir un mot pour nous. En fait, on choisit un mot pour le joueur qui est à notre gauche, et on va tourner comme ça jusqu'à que les 10 mots soient sélectionnés. Donc 10 mots à 5, à 4 il n'y en aura que 8 parce que c'est 2 chacun, et à 3 joueurs c'est 3 mots chacun. Mais on en joue toujours 10, hein, pour voilà, il faut qu'on se souvienne de la même quantité d'informations.
Il faut quand même en oublier. Voilà. Il faudrait pas en oublier.
Et donc, on va faire des points si on arrive à se souvenir des mots. Donc, à notre tour, on nous donne un mot, on étale le paquet de cartes devant nous. Donc, le dos des cartes, il y a des petits symboles un peu graphiques comme ça qui permet d'identifier chaque joueur.
Ouais, c'est ça. Si vous aimez jouer vert comme moi, il va falloir changer. Ouais, il va falloir jouer soit vague, soit.
Ouais, c'est ça. Soit terrain de foot, soit losange. Il y a des symboles comme ça pour identifier les joueurs. Donc, le joueur à qui on a donné un mot va étaler les cartes de ses adversaires. Et il va devoir essayer de dire je sais que t'as dit orange. Alors, on n'est pas obligé de se souvenir de la petite histoire, mais la petite histoire est là pour s'en rappeler, justement. Et donc, si on trouve la bonne couleur, on va faire 2 points. Et par contre, la personne qui a joué cette couleur-là, si on l'a retenue, cette couleur, c'est aussi parce qu'il nous a raconté une histoire qui nous a marqué. Et dans ce cas, cette personne va faire 1 point aussi. Donc, si on s'en souvient, on fait 2 points, l'autre fait 1 point.
Ce qui donne un intérêt, en fait, aux autres joueurs
voilà,
de raconter
une histoire qui est marquante.
Plausible, quoi. Puis, pas raconter n'importe quoi non plus, quoi.
Tout à fait. Et donc, si on s'en souvient plus, on va pouvoir demander un indice au joueur. Donc, à chaque fois, on peut demander un indice. L'autre joueur va pouvoir nous donner un seul mot, un mot qu'il a utilisé dans son explication. Voilà, pas plus. Et si on s'en souvient, on va marquer un seul point au lieu des deux parce qu'il nous a donné un indice. Par contre, cette personne marque toujours un point. Et si on raconte de la merde, si on s'est trompé, si on dit une couleur en étant sûr et que c'est pas ça, eh ben personne fait de point. Et on va faire ça jusqu'à que tout le monde ait joué 2 ou 3 mots, et on va compter les points comme ça, et donc celui qui aura le plus de points à la fin va gagner. Voilà pour l'explication, c'est relativement simple au niveau des règles, hein, on comprend assez vite, même si on n'a pas tout à fait compris au bout d'un tour de jeu, on comprend bien ce qui va se passer et comment ça va se passer.
C'est sûr qu'en fait quand on présente le jeu, enfin si tu présentes le jeu comme tu dis, c'est un jeu de mémoire, moi je sais que c'est justement ce que j'ai pas dit à une personne, tu vois, parce que je savais qu'elle aimait pas les jeux de mémoire.
Ah oui, c'est pas du tout un memory en fait, hein, c'est
non, c'est ça, ouais. On n'est pas du tout dans le memory comme l'éditeur d'origine, c'est Spiel Wiese qui avait fait mémoire, alors qui s'écrit pas comme mémoire mais mémo
avec plusieurs O et A,
c'est ça, qui lui vraiment il se joue sur la mémoire, la vraie mémoire, quoi. Et là en fait c'est
de l'association d'idées plutôt,
Ouais, en fait, il joue sur le principe de mince, comment on appelle ça, le principe de la mnémotechnie, de la mnémotechnique,
tout à fait, ouais.
Qui fait que bah tu te rappelles de d'une chose si bah effectivement tu lui associes autre chose, quoi. Mm. Et là le fait de raconter les petites histoires, bah ça permet d'aider à se souvenir des couleurs. Et n'empêche, on se rend compte que c'est assez hallucinant.
Ça marche très bien. Ouais. Il y a peu de choses finalement dont on se souvient plus du tout, quoi. Ou en tout cas, avec l'indice, c'est tout de suite. Souvent, ça fait cling, quoi. On s'en souvient plus trop parce qu'on mélange avec différents trucs. Généralement, quand on demande un indice, c'est ah oui, mais oui. C'est vrai. Ton histoire pourrie. Là.
Ouais. Et alors, c'est vrai que il y a plusieurs choses que je trouve. Parce que le game design, il est quand même assez minimaliste, mais il y a plein de petites choses qui font que le truc il devient vraiment intelligent. Effectivement, le fait que tu épuises tes couleurs, ça fait que ça te force à renouveler et à aller chercher peut-être des choses un peu plus tordues sur la fin de la partie. Quoi.
Ouais. J'allais y venir un peu plus tard. Là, on était dans l'explication. Après, effectivement, dans la critique, j'allais venir un peu là-dessus.
Moi, je te laisse continuer.
Pas de souci, mais en fait, sur le comparatif avec des jeux de la même famille, ben, j'en ai pas trop trouvé en fait qui, avec ce principe ou avec les sensations de jeu qu'on peut avoir en jouant à Farben.
Je sais pas. Ça me paraît assez inédit pour le coup. Ouais.
J'ai pas vraiment d'exemple. C'est un peu à la croisée chemin entre un party game, un jeu de narration un peu Dixit-like et un jeu de mémoire, parce que faut quand même se souvenir de ce qu'on nous a raconté, des couleurs, etc. Mais c'est vrai que c'est un mélange assez inédit et assez intéressant.
Moi, j'ai trouvé une légère parenté aussi avec Affinity, pour le côté où tu vas jouer sur... tantôt tu vas essayer de faire rire, tantôt tu vas jouer sur un souvenir, tantôt tu vas... Et du coup, tu oscilles comme ça. Les joueurs vont osciller entre du rire, pas des larmes, mais tu vois...
Oui, tu peux associer des différentes émotions. Oui, tu peux faire venir la nostalgie.
Voilà, c'est ça, la nostalgie, choses, c'est bien. c'est bien dit. Et c'est pour ça que je lui ai trouvé un petit lien avec Affinity pour ça.
Ouais, tout à fait. Sur la critique pure, donc comme vous l'avez compris, c'est un jeu que moi j'ai beaucoup aimé. C'est hyper simple dans les règles, mais c'est assez intéressant. C'est vraiment une expérience de jeu assez particulière. C'est vrai qu'on se rend pas compte en fait à quel point. On se dit souvent qu'on n'a pas de mémoire ou que voilà, la mémoire c'est quelque chose qui n'est pas fait pour nous, etc. Mais on ne se rend pas compte à quel point on peut la travailler et à quel point elle est assez puissante quand on l'utilise correctement. Et là, ça nous apprend quelque part à l'utiliser correctement parce qu'en faisant ces associations-là, ça fige quand même, ça fige un peu l'information sur notre disque dur. Et ce qui est le plus étonnant, c'est que même... moi j'y ai pas mal joué à l'association le vendredi soir là. On a fait plusieurs parties et d'un vendredi à l'autre en fait on se souvenait encore des histoires ou des couleurs la partie d'une semaine avant, quoi. Donc c'est assez bluffant là-dessus.
Et je pense que le jeu peut prendre des physionomies assez différentes selon à qui tu joues,
sur le groupe de personnes. Tout à fait,
parce que tu peux y aller, tu peux faire du
trash,
manger coco avec, quoi.
C'est pas vraiment comme du blanc manger coco, mais effectivement ton association, si tu veux marquer les esprits pour que les personnes se souviennent de quelle couleur t'as choisi avec quel mot, tu peux choisir d'être un peu trash, un peu choquant en fait pour que les personnes s'en souviennent. Mais voilà, c'est une stratégie parmi d'autres. Tu peux être, comme on le disait, émouvant. Tu peux être rigolo dans ce que tu dis. Enfin, il y a plusieurs stratégies pour marquer les esprits, en fait.
Non, c'est bien dit. C'est plus des stratégies, c'est bien.
Là où il est un peu déconcertant, quand on voit la boîte, quand on voit le jeu, c'est qu'il n'y a pas du tout de thème. Il n'y a pas du tout d'illustration. Il y a vraiment le strict minimum de ce côté-là. Donc ça plaît ou ça plaît pas, mais bon, par rapport à la mécanique de jeu, c'est pas non plus déconnant qu'il n'y ait pas d'habillage en fait autour de ça. C'est vraiment un jeu avec ses couleurs et ses mots.
Ouais, non mais justement au contraire, même, parce que du coup c'est presque un jeu concept.
Ouais.
Et du coup l'épure et le design du jeu, le design graphique du jeu se rapproche du design mécanique. tu vois, du game design
tout à
fait, je trouve.
Qui est assez, qui est assez pur aussi, ouais.
Ouais, et finalement, c'est, tu vois, c'est, ça devient cohérent en fait.
Ouais, alors ça devient cohérent, mais tu vois, c'est un jeu qui va pas forcément. Je sais pas s'il va en boutique par exemple,
oui, ça va
sans, sans conseil, ça va
attirer,
pas attirer
ouais.
l'attention.
Ouais.
Et
ouais.
voire même
sauf
pire
si
parce que.
Sauf si t'es peintre en bâtiment, peut-être quoi.
Ouais, okay. Parce que moi, quand j'ai sorti la boîte à l'assaut, j'ai dit bah maintenant on va jouer à Farben. Ils m'ont dit waouh, c'est quoi ce truc. Enfin, ouais. le nom leur parle pas. La boîte elle est toute blanche avec un petit côté en fait où il y a les couleurs, tu vois, mais en fait ils ont cru que c'était une boîte proto avec un test de couleurs, tu sais, quand tu fais un test d'impression en bas de la page t'as un petit liseré avec les différentes couleurs, bah
ouais, c'est
la boîte c'est un
faux,
peu ça,
ouais.
Il y a écrit Farben en noir sur du blanc et sur un bord de boîte il y a ces différentes couleurs.
Ça me faisait penser, mais enfin oui, je pense d'ailleurs que c'est ce qu'ils ont cherché à faire, hein, un peu comme les, tu sais, quand tu vas dans les magasins où ils vendent des peintures,
ouais, tout à fait,
je sais pas comment ça s'appelle.
Ah putain, j'avais le nom, mais oui, les trucs où il y a les différentes couleurs, un nuancier, voilà.
Ah, ça. Voilà, c'est ça.
C'est comme un nuancier. Bon, un nuancier où il y a, voilà, là il y a que les 9 couleurs, du coup. Il n'y a que les 9 couleurs, il n'y a pas le noir, blanc et le multicolore. Mais... Voilà, moi, ça m'a fait penser un peu à un test d'impression sur l'imprimante à l'époque. Voilà, donc ça peut déconcerter certains. Moi, je sais, voilà, les joueurs à l'assaut, ils m'ont dit « C'est quoi ton truc, là ? Ça n'a pas l'air bien. » Puis une fois qu'ils ont fait une partie, ils ont fait « Ah non, mais en fait, c'est super cool, mais voilà, ils ne seraient pas allés naturellement vers le jeu.
Ouais, ils se seraient peut-être pas arrêtés dessus en boutique. »
Voilà,
quand
ça.
Même.
Puis Farben, ça ne parle pas forcément aux gens. Tout le monde ne parle pas allemand, donc bon. Ça,
après,
ça peut être
dans, les, dans la catégorie jeu concept, on peut le rapprocher de The Mind. Et il faut avouer que le graphisme non plus de The Mind n'est
pas
grand chose, tu vois.
Et puis n'apporte pas grand chose, effectivement.
Non. Et pour le coup, n'empêche que, tu vois, je sais pas lequel des deux est le plus attirant en boutique. Tu vois. The Mind ou celui-là. Et j'aurais quand même tendance à dire que Farben est peut-être plus attirant. Hein. Je sais pas, après c'est bon,
ouais,
c'est personnel, mais.
En fait, il est plus attirant dans le sens où il va plus faire poser de questions, quoi. C'est quoi ce truc? Tu vois, il va peut-être plus y aller pour le dire. Plus
peut-être,
pour le côté un peu, je comprends pas ce que c'est. Plus que pour le côté, voilà, c'est. Plus
et c'est chelou, ces lapins.
Ouais, c'est ça. Bon, un jeu de lapin, j'ai pas envie, quoi. Faites pas du tout, mais. Un jeu avec des lapins, bof.
Tiens, une extension pour Benny Kingdom.
C'est ça. Ouais. Je vous le conseille. Je vous conseille de l'essayer parce que forcément, c'est assez dur d'expliquer toutes les sensations qu'on peut avoir en jouant à ce jeu, mais c'est assez fou. Le petit reproche que je pourrais lui faire, un des petits reproches que je pourrais lui faire, c'est que là, j'ai fait plusieurs parties à l'assaut un peu avec les mêmes personnes. Et il nous arrivait de retomber sur des mots qu'on avait déjà eu à une partie précédente. Et bah là, forcément, l'association d'idées, elle est la même. Et donc, il y a, enfin, à part si tu te forces à raconter une autre histoire, en fait, tu dis moi, ça me fait penser à ça parce que c'est ça. Enfin, c'est évident pour moi. Et du coup, j'ai du mal à changer d'histoire. Et du coup, tu peux te retrouver avec les mêmes histoires, les mêmes associations.
Ouais.
Ou alors t'as
puis
justement
t'as même tout intérêt à pas changer parce que si tu joues avec les mêmes joueurs il y a des chances qu'ils
se
rappellent encore
de ça,
voilà. Ouais.
Donc ça gâche pas le jeu hein, mais ça a un petit peu moins d'intérêt comme ça quand on retombe sur une même carte et qu'on a encore les mêmes couleurs en main avec les mêmes joueurs. Bon après il y a quand même il y a pas tant de mots que ça, je crois il y a 59 cartes mots. Ouais, c'est ça, 59 cartes mots recto verso.
Ouais.
Voilà, donc ça fait 118 mots possibles. Finalement, c'est pas tant que ça, puisque tu utilises quand même 10 cartes par partie.
Par partie.
Donc, si tu joues beaucoup avec le même groupe de personnes, tu peux vite retomber sur les mêmes mots finalement.
Ouais,
bon, faire des dizaines de parties. Hein, mais...
Tu joues avec 10 cartes et tu les rebats et t'es à peu près sûr de retomber sur une ou deux cartes quand même.
Voilà, c'est ça.
C'est ça. Quoi.
Bon après il y a toujours le côté recto verso donc tu vas choisir laquelle tu utilises. Effectivement là il y a eu des cas où on a vu des cartes qu'on avait déjà utilisées, on a choisi plutôt l'autre mot pour éviter de retomber dessus. Bon après tu peux avoir un côté marrant aussi, déjà tu peux ne pas avoir les mêmes couleurs disponibles, donc là c'est plus intéressant parce que tu vas être obligé de choisir une autre couleur et du coup de trouver
une autre
explication. Donc voilà, c'est pas, ça arrive pas à toutes les parties tout le temps non plus, mais voilà, on a eu un ou deux cas comme ça où, où on a eu ces mots qui arrivaient avec les mêmes couleurs, ce qui rendait la chose un poil moins intéressante. Mais bon, sur la partie complète, c'est un petit détail, quoi. En termes d'ergonomie, comme on le disait, hein, c'est simple, sobre, mais plutôt efficace, quoi.
Mmh. Ouais. Moi, j'ai trouvé que le comptage des points était, je sais pas, moi, j'ai tendance à me planter sur le comptage des points.
Ah.
Pas toi.
Alors, pour le comptage des points, effectivement, je l'ai pas dit, mais il y a un petit bloc-notes. Sur lequel on va mettre les prénoms en face de chaque symbole, et après il y a des petites cases, et donc à chaque fois que quelqu'un fait un point ou deux points, on coche une ou deux cases. Non, en fait, faut pas aller trop vite.
Faut faire attention, quoi. Ouais. Faut être vigilant sur le comptage des points.
En fait, faut que le joueur qui annonce les couleurs des autres fasse pas toi c'est bleu, toi c'est vert, toi c'est voilà. Faut y aller mollo sur le voilà. Il dévoile une couleur, on voit si c'est bon, et si c'est bon, on compte les points, et il dévoile l'autre couleur. Et... Mmh. Parce que après, les points c'est soit 0, soit 2, soit 1. Enfin, c'est. Mmh. Enfin, ça peut aller assez vite.
C'est pas que c'est compliqué, hein. C'est juste qu'effectivement, j'ai tendance à oublier ou à.
De mettre les points, ouais.
Ouais, et bon, après, c'est pas non plus forcément le truc le plus primordial dans le jeu, mais toi, avec un système de jetons, je pense que ça aurait été plus simple. Après, le prix aurait pas été le même,
ouais.
Évidemment.
Non, après, ça m'a pas choqué. J'ai pas l'impression qu'on s'est trompé. Après, effectivement, tu sais jamais si t'as oublié de cocher une fois ou pas.
Mais tu vois, en en parlant, tu vois, peut-être que j'essaierai de donner des cartes la prochaine fois. Donner des jetons, en fait, pourquoi je prendrais pas les cartes qui restent, je filerais des cartes, quoi, aux gens, peut-être.
Ouais.
Bon, bref, voilà. Mmh.
Mais après, effectivement, si tu donnes des cartes aux gens, ça t'empêcherait pas d'oublier d'en donner à certains, mais peut-être que eux vont s'en rendre compte que tu les as oubliés, quoi.
C'est plus dans cet aspect-là.
Comme tu coches dans ton coin, effectivement, tu. Si tu oublies quelqu'un, ils s'en rendent pas forcément compte, ouais. Bon, sur la partie adéquation avec le thème, il n'y a pas grand chose à dire. Hein.
Voilà. Les couleurs sont belles.
Les couleurs sont belles, ouais, bah, c'est des couleurs, quoi. Non, mais les cartes sont très simples. Même les cartes avec les mots, en fait, c'est des cartes toutes blanches, voilà, avec juste le mot écrit en noir au milieu, en pas très gros en plus. Enfin, c'est vraiment sans fioritures, quoi. Donc, moi, ça me déplaît pas. Mais c'est vrai que ça peut sembler très. Très très simple, quoi. Très
épuré. Est-ce que tu t'es renseigné sur la police de caractère utilisée?
Non, pas du tout.
Je déconne.
J'aurais pu, hein, mais ouais, parce que en gros, c'est un peu le seul détail qu'on pourrait donner, mais non, je l'ai pas.
Quel dommage. Ce n'est pas du comics sans MS.
Non, alors ça c'est sûr que non. Ça, j'aurais
ni
reconnu.
Du papyrus.
C'est ça. Ouais, je ferai des recherches.
Non, je déconne.
Ouais. Alors sur l'interaction et les sensations de jeu, finalement c'est une interaction hyper directe, mais c'est pas agressif du tout, quoi. C'est pas de l'interaction dans le sens je vais faire
c'est pas de l'affrontement, c'est pas
non,
de la confrontation.
C'est pas du tout l'interaction, mais finalement l'interaction est très forte puisque faut raconter quelque chose aux autres et faut que les autres soient attentifs à ce que tu racontes. Et pareil, quand les autres te racontent leur histoire, faut être très attentif et faut se souvenir. Et donc finalement, il y a de l'échange et de l'interaction qui est assez forte de ce point de vue-là. Encore une fois, hein, c'est super intéressant de voir à quel point écouter une histoire va pouvoir te réveiller des souvenirs par rapport à un mot et une couleur, quoi. C'est assez fou. Comme je l'ai dit aussi, en termes de scoring, en fait, finalement, il y a pas mal d'interactions puisque les joueurs sont dépendants les uns des autres par rapport à leur score. Parce qu'effectivement, quand je vais trouver une couleur associée à quelqu'un, je vais faire 2 points, mais je vais donner 1 point à la personne aussi. Donc, c'est-à-dire que finalement, même si tu vois, les scores sont très très serrés dû à ça, puisque effectivement, si je fais des points, je vais aussi donner des points à la personne que j'ai deviné, et du coup, ça c'est assez intéressant. Et même ça, enfin, moi à force de jouer, je réfléchis toujours stratégiquement. Et stratégiquement, en fait, tu te dis finalement, j'ai intérêt à donner une histoire dont la personne se souvient pas trop. Mais avec l'indice, il faut que ça soit évident. C'est-à-dire que, parce que effectivement, quand tu trouves la bonne couleur sans demander d'indice, tu fais 2, la personne fait 1. Donc tu vas la distancer de 1 quelque part. Mmh.
Par contre, si tu trouves pas, ou si tu trouves avec un indice, soit les deux personnes vont faire 0, soit les deux personnes vont faire 1. Donc tu vas avancer au même rythme qu'elles, finalement. Donc t'as plutôt intérêt, quand tu dois deviner les couleurs, t'as intérêt à les trouver sans indice. Par contre, quand quelqu'un devine ta couleur, il a intérêt à avoir le petit doute qui force à demander un indice pour que tu avances avec le point, mais que lui n'avance pas plus que toi, quoi. Donc, bon, après, c'est subtil, hein, mais.
Ça me paraît impossible à doser, quoi.
Ouais, c'est un truc que je me suis dit, tu vois, mais.
Techniquement, c'est ce qu'il faudrait faire.
Voilà,
ouais, c'est
très compliqué à doser.
Le côté un peu Dixit, tu vois, justement, où il faut pas que ce soit évident,
oui,
mais
tout à fait.
Sauf que là, c'est sur une seule personne, donc du coup, je suis pas sûr que tu puisses vraiment le.
Et surtout, tu sais pas sur quelle personne à l'avance ça va, tu vois, enfin, tu sais pas qui va devoir deviner tel mot pour toi, donc effectivement, c'est assez dur à mettre en œuvre. Mais voilà, t'as un côté, tu peux un peu jouer là-dessus, et même après, tu vois, t'as pas le droit de trop parler quand les personnes essayent de deviner, tu vois, parce que t'as pas le droit de leur donner d'indices si elles le demandent pas. Mais par contre, moi, dès que quelqu'un hésite, j'hésite pas à dire, tu peux demander un indice si tu veux.
Tu sais,
tu sais, si t'as un doute, demande un indice, parce que sinon tu vas pas faire de points. Donc, voilà, bon, tu peux jouer un peu là-dessus. Enfin, généralement, je le mets aussi dans les jeux d'ambiance parce que généralement ça crée quand même beaucoup de réactions à la table. Hein. Il y a beaucoup de rires, beaucoup de parlotte. Enfin,
on est quand même plus dans du jeu d'ambiance de toute façon
qu'un
décrypto par exemple ou un code names qu'on place dans des jeux d'ambiance parce que on sait pas où les foutre, qui ne sont pas vraiment des jeux d'ambiance, quoi, tu vois.
Ouais.
T'as quand même en général c'est le rire qui domine quand même, c'est le rire qui va marquer les parties quand même souvent.
Clairement. Sur l'interaction, les sensations de jeu, encore une fois je vous invite à faire une partie, c'est vraiment un mélange de plein de sensations qui sont assez étonnantes. Bah, il y a beaucoup de rigolades parce qu'effectivement on se rappelle des histoires où les gens inventent des histoires pas possibles ou essayent de justifier 40 fois sur la couleur avec 40 éléments différents ou alors avec des trucs un peu trash. Puis après le feeling de se souvenir exactement des trucs, c'est vraiment assez cool, quoi, de se dire bah toi je sais que c'est ça, toi je sais que c'est ça. Enfin, quand tu te souviens de toutes les cartes d'un mot, tu te dis franchement c'est cool. Enfin, effectivement les histoires ont aidé, mais il y a une grande satisfaction de se souvenir de tout ça, quoi. Et puis même quand c'est quelqu'un d'autre qui doit deviner, tu sais, qui hésite sur ah merde toi c'était quoi, moi je me souviens. Moi je sais, voilà. Donc il y a un côté très très satisfaisant dans ce jeu au niveau des souvenirs.
Moi j'ai vraiment trouvé ça top, hein. J'hésitais au niveau des chroniques, mais j'ai peu joué à Farben par rapport à Wingspan, donc je t'avais même dit qu'il y avait de fortes chances que ce soit du coup mon jeu du mois prochain, donc du coup je suis content que t'en aies parlé, au moins comme ça on est sûr qu'il aura été cité dans les jeux du mois.
Ouais.
Moi je trouve que c'est vraiment complètement innovant, en fait. On joue vraiment sur des choses, c'est une sensation de jeu qu'on connaît pas.
C'est
presque un jeu concept, en même temps ça marche.
Ouais, c'est hyper efficace.
Ouais, sur le peu de parties que j'ai fait, on se demande. Je trouve qu'il est un petit peu long à 5 pour un jeu de ce type là.
Oui, on est sur du 3 quarts d'heure.
À 4, c'est encore même un poil long, mais le problème c'est qu'à 3 après ça devient.
C'est moins intéressant.
Moins intéressant. Donc du coup, il y a cet élément là qui fait que je trouve dommage. Pour autant, je trouve que c'est juste un jeu excellent, quoi. C'est complètement concept. Je parlais de The Mind, c'est pas pour rien. Pour moi, on est dans la veine de genre de jeu. Peut-être qu'on va en voir du coup arriver plein comme ça, et je trouve ça hyper intéressant. Le jeu, je sais plus dans quel sondage, je sais pas quoi. Il y a des game designers qui ont été interrogés. Ils ont été interrogés, on leur a demandé quel était pour eux leur jeu préféré de 2018. Et il se trouve que Wolfgang Warsch a cité Farben, voilà, ce qui paraît un peu évident du coup quand on connaît l'animal avec The Mind. D'où mon parallèle qui n'était pas anodin. Et c'est aussi le jeu qui a cité Uwe Rosenberg, qui pour le coup, voilà, c'est pas le style de jeu que lui crée, mais je pense que c'est clairement le genre de jeu qui rend jaloux les game designers. The Mind, ça rend jaloux les game designers, et je pense que c'est...
Ouais, c'est marrant parce que c'est un premier jeu en plus, c'est une autrice qui...
enfin j'ai lu un peu sa bio, c'est une Française qui est partie à Berlin, qui est partie vivre à Berlin, qui a découvert un peu le jeu de société en Allemagne justement, avec les pléthores de barrageux et d'associations qu'il peut y avoir en Allemagne, et voilà, qui a eu cette idée, je crois, dans un cours d'allemand ou un cours qui faisait associer des mots à des couleurs pour retenir un peu les mots, et elle a eu cette idée là à ce moment là et c'est vraiment c'est un premier jeu, c'est assez assez bluffant, bluffant. c'est vraiment cool. Sur le type de joueur à qui le jeu peut s'adresser, alors il y a des prérogatives, c'est savoir lire et puis connaître le sens des mots quand même pour pouvoir raconter une histoire autour, hein, donc c'est vrai que 10 ans c'est je pense le strict minimum, parce qu'effectivement il y a certains mots concepts qui sont pas forcément évidents.
Pour le coup j'avais pas regardé l'âge, et toi, moi j'aurais dit 8 ans comme ça.
Ils disent 10 ans, enfin sur en tout cas sur Philibert c'était 10
ouais.
ans.
Ouais, maintenant je suis en train de regarder la règle et ouais.
Je cherche des mots parce que je sais que nous on joue il y a des plus jeunes dans l'association, on joue notamment avec un ado qui a 14-15 ans. Et tu vois, il y a des mots genre avarice, il sait pas forcément ce que donc il faut lui expliquer le sens du mot avant pour qu'il puisse jouer sa couleur, tu vois. Il y a des mots un peu qui sont pas des mots courants ou qui sont pas des mots faciles pour des enfants. Donc à part en faisant un peu le tri sur les cartes ou en expliquant le mot, en essayant d'expliciter ce que c'est, ça fait du vocabulaire, c'est toujours bien aussi pour les enfants. il faut savoir qu'il y a des mots qui sont un peu plus compliqués. Et pour lesquels, faut peut-être une petite explication si on joue avec des enfants. Mais mis à part ce petit détail-là, ça marche très très bien, je pense, aussi bien en contexte familial qu'en contexte entre amis, quoi. En tout cas, l'asso, ça a fait un malheur pour ceux qui ont joué. Pour la configuration, donc 3 à 5 joueurs, comme on l'a dit, moi j'ai surtout joué à 4 et 5, en fait, j'ai pas fait de partie à 3. Donc effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, je me dis qu'à 3, t'as quand même. T'as que 2 autres personnes plus toi à retenir, même si tu dois citer plus de mots. Je pense que ça doit être quand même moins intéressant, en tout cas, ça doit paraître un peu plus facile. Parce que finalement, t'as beaucoup moins d'informations à retenir. T'as beaucoup moins le cas aussi que tu peux avoir à 5, tu vois, t'as 2 ou 3 personnes qui mettent la même couleur et les 2 autres qui mettent des couleurs différentes, et tu te dis tu vois, t'as cet effet, je sais qu'il y en a plusieurs qui ont mis la même couleur, mais il faut que je me souvienne qui a mis la même couleur, ce qui est pas forcément évident. À 3, c'est un peu plus tu dois retenir ce que toi t'as mis, ce qui généralement est plutôt
qui arrive que
plutôt bien. Bon, ça dépend, ouais, ça dépend pour les mots, mais globalement tu y arrives plutôt pas mal. Et après à 3, t'as que 2 autres couleurs à retenir, donc c'est effectivement c'est un peu moins intéressant. Moi personnellement, effectivement, tu parlais de la longueur un peu plus importante à 5. Finalement, pour moi, c'est pas trop gênant parce que tu t'emmerdes pas trop pendant le jeu, même s'il dure 3 quarts d'heure, 1 heure à 5. Il n'y a pas de moment où tu t'embêtes, à part peut-être à la fin dans la résolution des couleurs où tu as un peu plus d'attente. Mais finalement, comme tu dois être attentif à ce que les gens racontent, etc., ça passe plutôt vite, même si c'est un peu plus long et même si c'est long pour un jeu d'ambiance. Moi, limite, 5, dans le cadre asso ou boulot, j'aimerais même pouvoir y jouer à plus, tu vois. Alors effectivement, après, c'est compliqué parce que mais dans l'absolu, j'aimerais pouvoir jouer à plus.
C'est vrai que je suis d'accord avec toi, on aurait ce genre de jeu, on a envie d'y jouer à plus, mais on voit que dès la 5, c'est quand même assez long.
Ouais.
Peut-être pas assez insister sur le côté, le jeu il est vraiment en deux temps.
Oui.
Et il y a vraiment une partie qui est la partie où on cherche les couleurs, en fait, qui est assez dynamique, qui a un côté fun, etc. La deuxième partie tombe un peu plus quand même, je trouve, en termes de d'effet autour de la table, elle est quand même moins intéressante, quoi.
Oui, c'est ça, c'est chacun son tour doit se souvenir des couleurs, donc effectivement il y a moins d'interaction entre les joueurs. Et en fonction du temps que les gens prennent pour réfléchir, il peut y avoir quelques longueurs sur la deuxième partie. Mais encore une fois, quand on est sur des tables où l'ambiance est bonne, il y a des petites vannes qui partent, il y a des petits bluffs, il y a des petits trucs comme ça qui font que finalement on passe un bon moment.
Ça fait passer
effectivement la deuxième partie, il peut y avoir quelques petites longueurs si on a quelque chose, une petite chose à lui reprocher, ça peut être ça effectivement. Bah voilà, pas de suite ou d'extension ou de contenu additionnel prévu pour le moment. Comme je dis, ça pourrait être intéressant d'avoir un petit deck de cartes avec des nouveaux mots pour renouveler un peu si on joue beaucoup avec les mêmes joueurs.
Oui, sinon, après, voilà, je pense qu'on peut, on peut aller piocher dans d'autres trucs.
Tout à fait, créer des mots.
Ouais, globalement, c'est vrai que c'est plutôt des concepts, on va dire, effectivement. Mais on pourrait très bien tenter d'adapter avec d'autres choses. À partir du moment où, de toute façon, tout le monde est sur les mêmes choses autour de la table, c'est sûr qu'il faut pas jouer avec des trucs qui ont des couleurs évidentes. C'est sûr que si tu mets Dark Vador autour de la table, ça va être compliqué de dire je mets jaune, quoi, tu vois. Bon,
ouais, à part que c'était bien noir avant, c'est toujours pareil, tu vois. C'est en fonction de ce que les personnes ont joué, ça peut créer justement des trucs assez drôles, quoi.
Ouais, voilà, ouais. Ou alors il faudrait, ça pourrait être intéressant, ça, de faire l'inverse, soit de jouer avec des trucs qui portent une couleur, mais d'interdire la couleur.
C'est vrai.
Ça pourrait être assez rigolo.
Mais tu vois, exemple aussi sur ce genre de truc, c'est que c'est quoi qu'on avait, je sais plus, mais je me souviens de l'histoire et de la couleur. C'est en fait l'ado de 15 ans là qui dit, je crois que c'était école ou un truc comme ça. Mm-hmm. Et en fait, il avait déjà joué blanc. En fait, il nous avait raconté au début de la soirée qu'il venait de passer son brevet blanc des collèges. Ah oui. Et donc, il avait déjà joué le blanc, tu vois, un truc comme ça. Et donc là, il nous dit, à l'école, je viens de passer le brevet blanc, le noir, c'est le contraire du blanc, donc je joue noir, tu vois.
Je crois qu'il y en a un qui nous a fait ça aussi à Cannes, hein, dans notre partie.
Ouais,
ça avait marché. Ouais.
Ça a pas manqué. Au moment où il y avait école, la personne qui devait donner lui dit, ah, toi, brevet blanc. Ah mais non, c'est le contraire. Enfin, bon, tu peux aussi, si t'as plus la couleur par rapport à l'histoire que tu veux raconter, tu pars un peu en vrille et du coup, là typiquement on lui dit non mais mec, t'as cité deux couleurs dans ton explication, t'étais sûr qu'il y allait avoir des confusions, quoi. Enfin c'était garanti, quoi. Enfin bref, voilà. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Comme vous l'avez compris, au niveau de la vie finale, c'est un jeu qu'on a beaucoup aimé, c'est très original, c'est vraiment... Voilà, c'est vraiment à essayer au moins, hein. Je pense que je vous laisserai vous faire votre propre avis, mais si vous avez l'occasion d'en faire une partie, faut vraiment pas refuser et puis essayer un peu pour voir à quoi ça peut ressembler. En plus, c'est un jeu qui est vraiment accessible niveau prix, hein, 11,50€. Bon, ça peut faire le petit achat supplémentaire Philibert pour avoir la livraison gratuite.
C'est ça, pour le franco de port, au pire vous passerez au moins une bonne soirée.
Ouais,
ça fait, allez, ça vous fait le franco de port, ça évite les 6€, c'est ça je crois, ça évite les 6€, ça vous fait le jeu à 5 balles 50, et ça va, quoi.
Ça vaut vraiment le coup, hein. Pour le coup c'est vraiment, mais même pour 11,50€, je pense qu'il vaut vraiment le coup. C'est vraiment un jeu que je pense qu'il faut assez original et assez... Puis contrairement à The Mind, je trouve qu'il est beaucoup moins clivant aussi. J'ai pas encore eu de personnes qui ont vraiment été hermétiques au jeu, ce qui peut arriver avec The Mind, quoi.
Il fait moins « ceci n'est pas un jeu », quoi. Ça,
ouais,
c'est
ça. Tout à fait. Pour parler de l'édito de Chanouillette sur
l'édito
The Vox.
Ouais, que j'ai pas encore lu, en fait. J'ai retenu le titre.
On vous conseille Farben si vous avez l'occasion. Et puis, je refais la petite fiche signalétique pour terminer. Mm-hmm. Donc, Farben, c'est un jeu de Apolline Jove, édité par Acting Game, illustré par un studio autrichien qui s'appelle, alors je sais plus comment on dit 101 en allemand, mais 101 Coding und Design. C'est pour 3 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 45 minutes en moyenne. Ça peut être un petit peu plus long effectivement si à 5 et si les personnes réfléchissent un peu pour retrouver la couleur, mais bon, on est
C'est surtout que eux ils donnent 20 à 30 minutes et effectivement ça me paraît assez difficile à tenir, hein.
Ouais, c'est plutôt nous ce qu'on a fait, c'est plutôt du entre 30 et 45. C'est plutôt en moyenne 45 que 30, ouais. Enfin, comme je te dis, moi j'ai beaucoup joué à 5, hein, plus qu'à 3 ou 4, donc
ouais, on est sur des jeux optimistes ce soir.
Tout à fait.
Féministes et optimistes.
C'est disponible chez Philibert pour 11,50€. Et c'est disponible, hein. Ça c'est bien. Un jeu sur deux disponible, c'est une bonne moyenne.
Ouais, c'est notre moyenne habituelle.
Voilà. Et c'est tout pour ce mois-ci.
C'était bien cool. Moi, je suis bien content qu'on ait pu parler de ces deux jeux-là. Et puis, c'est peut-être sûrement
un
hasard.
Ça prolonge un peu le retour de Cannes parce que.
Voilà, et puis pour une fois on parle de deux autrices, c'est quand même super rare.
C'est vrai.
Et là on fait le duo gagnant ce soir, quoi.
Tout à fait. Voilà.
C'est assez chouette.
Ouais.
Non, c'était pas un jeu de mots.
Eh bien, bah, si vous avez aimé cette chronique, n'hésitez pas, comme d'habitude, à venir sur le site pour nous le dire et laisser des petits commentaires. N'oubliez pas également qu'on a, si vous voulez nous soutenir, un Tipeee, vous pouvez faire des dons, ou un PayPal aussi, si vous voulez faire des dons plus ponctuels.
Sachant que sur Tipeee, on peut faire des dons ponctuels aussi. Ouais, et sur Tipeee, on peut faire des dons ponctuels. Et sur Tipeee, maintenant, on fait des petits bonus pour nos tipeurs.
C'est vrai.
Des bonus exclusifs.
D'ailleurs, voilà. Il y a eu un petit poisson d'avril pour le 1er avril.
C'est ça. On enregistre le 1er avril.
Voilà, bah, on vous retrouve le mois prochain pour de nouveaux jeux. Et puis d'ici là.
Eh ben ouais. Jouez bien.